l'émission du Père Marie-Dominique Philippe sur Métaphysique aujourd'hui, le 7 juillet l'an 2000 à Saint-Jean-d'Or.
Mon Père, je voulais vous poser une première question qui a d'ailleurs été soulevée dans un groupe. C'est la première voix que vous avez posée ce matin pour la découverte de l'existence de Dieu par l'amitié. Vous avez parlé de l'amour infini et de la bonté limitée de l'ami. Or, l'amour infini, ça fait penser un peu à l'argument ontologique de Descartes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est comme l'argument ontologique, et est-ce qu'il y a une différence entre la pensée et l'amour de ce point de vue-là?
Il est évident que je vous avais fait remarquer au début que la preuve, qu'il faut ne jamais oublier le point de départ premier, ceci est. C'est justement ce qui est la grosse différence avec Descartes. C'est que Descartes commence par le cogito. Donc il commence par l'intentionnalité. Et nécessairement, il regarde l'amour au point de vue intentionnel. Si au contraire, on maintient toujours le jugement d'existence, ceci est, l'ami existe. Comme ami, il existe. Et l'ami n'est parfaitement lui-même que quand il aime. Son amour existe. C'est très vrai que l'amour est intentionnel, c'est pas la réalité. On le sait trop bien. Quand on aime, c'est pas encore réalisé. C'est une orientation qui nous aide, mais il y a la réalité derrière. Et souvent la réalité ne correspond pas à ce qu'est l'amour, c'est très vrai ça. Mais au fond, c'est la dimension de l'ami. C'est l'ami qui m'oblige d'opposer Dieu. L'ami en aimant. C'est pas l'amour comme tel, mais j'ai posé exprès le problème. D'une façon puisque très directe, pour montrer qu'il y a quelque chose de très profond dans l'amour de l'ami qui se dévoile en aimant et qui se dévoile comme étant un être qui, j'allais dire, s'identifie à son amour. Et qui en même temps reste limité. Et donc, il y a la limite et le dépassement de la limite, l'absolu. Disons, plutôt qu'infini, absolu. Ce serait plus juste. N'est-ce pas ? Ce serait plus précis. Exactement comme l'absolu de l'exister. J'existe. C'est quelque chose d'absolu. J'existe, tu n'existes pas, le néant, la contradiction qui montre bien l'absolu. Bien, l'amour de l'ami vis-à-vis de son ami a quelque chose d'absolu. Et pourtant, lui, il est limité.
Bon. Donc en fait, quand vous prenez cette première voie, entre guillemets, c'est parce que vous partez vraiment du problème de la personne.
Ah oui, c'est le problème de la personne qui se dévoile dans l'amitié. Je connais vraiment ce qu'est l'homme quand je connais mon ami. C'est une connaissance très concrète. Oui, exactement, très concrète, tout en étant intentionnelle, elle est très concrète. Et je vois tout son réalisme dans l'ami. C'est évident que quand on prend le point de vue de l'amitié, pour soi, normalement, on devait le présenter peut-être après la preuve ontologique. Je vais présenter d'abord pour vous réveiller. Ça fait choc. Comme on est obligé de se dire qu'il y a quelque chose d'important là, pour bien montrer qu'il y a quelque chose d'important. C'est vrai ce que j'ai dit, ça demande précision, d'être précis et d'être précisé pour ne pas le confondre avec ce que Descartes peut dire.
Après, il y a deux questions qui portent sur le même problème. Quelle est la différence entre ce que vous avez appelé du point de vue philosophique et en utilisant les traditions religieuses, le mystère de la création et la vision scientifique du Big Bang et de l'origine de l'univers?
Oui, bon. J'ai d'abord prouvé l'existence d'un être premier. Et je regardais comment cet être premier se situe par rapport à mon « je suis » qui est toujours présent et toujours lié à ceci. Je suis un être existant, ce n'est pas mon « je suis » intentionnel qui importe, c'est que c'est moi existant. Le « ceci est ». Et c'est ce « ceci », c'est « je suis ». Et j'essaie de saisir le lien qui existe entre ces deux affirmations d'être, au niveau de l'être. Tandis que le savant, quand il saisit le Big Bang, qu'est-ce qu'il fait? C'est purement imaginatif. Il essaie de saisir un premier dans la forme, pas dans l'être. Or, le premier dans la forme, c'est pas la peine de chercher souvent avec le Big Bang. Il suffit de prendre chez l'artiste. Chez l'artiste, l'idée que j'ai est première, et de là je réalise mon œuvre. Et je grossis ça pour en faire le premier absolu. Donc, c'est pas du tout la même structure du point de vue épistémologique. D'un côté, c'est une relation réelle portant sur deux modalités d'exister. La modalité d'exister d'un être premier et la manière d'exister de moi-même. Et je dis, pour moi, l'être, mon être, mon exister est reçu. Pour Dieu, l'exister, c'est son être. Il n'est pas reçu, il est.
Donc au fond, s'interroger sur la création en philosophie, c'est pas s'interroger sur l'origine.
Non, c'est tout à fait juste. Je n'ai pas regardé d'où la question du temps. Parce que la question du temps est concrète. Dieu n'a pas créé le temps. C'est impossible de créer le temps. Le temps, ça vient pour mesurer des êtres physiques en mouvement. Ils sont mus.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que la création ne porte pas sur le devenir. Non. Dieu crée des êtres qui sont dans le devenir.
Exactement. Voilà. Qui n'existent que dans le devenir. La question du temps, à ce point de vue-là, est très intéressante, parce que le temps n'existe que grâce à l'intelligence humaine. C'est du reste très important de s'apercevoir, parce que quand on parle du temps avant l'homme, et qu'est-ce qu'on sait ? Avant l'homme, avant qu'il y ait un homme, le temps. Le temps existe pour Dieu, non, c'est l'éternité. Avant que l'homme ne soit créé, mais le temps n'existait pas. Et je ne peux pas me mettre à calculer quand a été la création? Alors, c'est rien. Il aurait fallu qu'un homme soit là. Qu'Adam soit là. Et qu'Adam dit, ah, j'ai compris ce qu'est le temps. Il n'a pas dit ça, Adam. Le temps, c'est l'homme qui unit le passé, le présent et le futur. Il y a un ordre. Et l'instant actuel est la seule chose qui existe pour le temps. Le temps n'existe qu'en fonction de l'instant. Parce que le futur, ça n'existe pas. Et le passé, ça n'existe plus. Alors, qu'est-ce qui existe dans le temps? L'instant. Et c'est par l'instant que vous êtes que vous reliez l'éternité. Vous ne touchez jamais l'éternité par le passé. C'est pour ça, du reste, que l'histoire ne peut pas être sagesse. Elle ne touche pas l'éternité. Elle ne touche pas Dieu. Elle ne peut pas être sagesse.
Est-ce que le philosophe a un regard de sagesse sur le devenir? Puisque vous dites la création non. touche l'être, est-ce qu'il y a un regard de sagesse sur le devenir?
Non. Je peux étudier le devenir, mais le devenir ne touche pas Dieu. C'est l'être que Dieu touche directement. Ça, c'est très important pour la toute question de l'évolution et de la création. Souvent, on dit que l'évolution vient supprimer le problème de la création. Mais non, l'évolution ne porte pas sur l'être. Il porte sur le devenir, sur le changement, la croissance et le changement des animaux. Mais il ne porte pas sur l'être.
Mais est-ce que dans le gouvernement divin, dans la croissance d'une personne, est-ce qu'on n'a pas un certain regard sur le devenir? Comment Dieu regarde notre croissance? Vous avez parlé tout à l'heure de la recherche de la vérité.
Oui.
Est-ce que cette croissance et ce devenir, Dieu a un regard de sagesse dessus?
Éternel. Ce regard éternel qui est au-delà du temps, au-delà du devenir. Dieu regarde tout à travers son être qui est éternel. Donc c'est à travers l'éternité que Dieu regarde le temps. Il le respecte comme une chose très respectable, puisque ça dépend des réalités mues. Elles sont dans le temps.
Ensuite, mon père, il y a une question qui vous est posée sur le lien entre le gouvernement de Dieu et la liberté. Que veut dire que Dieu gouverne un esprit en le laissant libre? En quoi consiste cette liberté? Comment comprendre que Dieu nous porte d'une façon radicale tout en nous laissant libres dans nos choix?
L'action de Dieu sur nous, c'est toujours par le point de vue de l'être. Dieu n'agit pas sur le devenir, directement, par les causes secondes. Vous comprenez? Il y a deux regards de Dieu. On comprend ça très bien quand on regarde la procréation de l'homme. Les parents sont cause de la formation du tout petit, quoi, on appelle là. Et ils sont cause du devenir, formation du corps. Tout l'aspect génétique et scientifique qu'on peut avoir vis-à-vis de la formation du corps. C'est sûrement une des choses très très belles de la science. D'avoir reconstruit génétiquement comment le corps humain se forme. Il se forme par des causes secondes, les parents. sont cause seconde. La mère est cause maternelle de la formation du corps. Dieu ne forme pas le corps, c'est pas Dieu qui forme le corps. Il le forme en ce sens que tout dépend de Dieu, mais à travers des causes secondes, et par des causes secondes, pas directement. Tandis qu'il agit directement sur l'être et sur l'esprit. Parce que l'esprit, par l'intelligence, touche directement l'être. Alors, dans la liberté, c'est évident qu'il y a un choix libre de recherche de la vérité. La recherche de la vérité en moi, c'est un acte très profond qui regarde ma finalité, qui est au-dessus par le fait même du devenir. Mais cet acte profond qui regarde la vérité va se réaliser à travers un devenir. Va se réaliser dans un devenir. Dieu agit directement sur ce qu'est cette action vitale de chercher la vérité. Ça existe intentionnellement, ça existe dans mon intelligence quand je recherche la vérité. Dieu agit donc sur la fin, par la fin, sur tout ce devenir. Mais il n'agit pas directement sur ce devenir, mais par la fin. Je cherche le terme. Et je tends vers le terme. Donc l'action de Dieu n'est pas sur la détermination que j'ai libre, sur l'exister de cette intentionnalité, de cette intention. Et Dieu respecte, en ce sens que Dieu coopère avec l'intelligence humaine qui a opté pour cette recherche de la fin, qui a choisi pour cette recherche de la fin. Et l'intelligence humaine s'est mise dans des conditions telles qu'elle puisse atteindre cette fin. Et Dieu agit sur l'être de cette intention par la fin. Et il agit sur quelqu'un qui se déterminera librement. Parce que Dieu veut qu'il se détermine librement. Il a tout fait pour qu'il soit capable de déterminer cette intention librement. Que nous imaginons toujours l'action de Dieu comme notre action par le devenir. Nous n'agissons que sur le devenir. Nous n'agissons jamais sur l'être, directement. On agit sur l'être par le devenir. C'est comme ça que l'artiste agit. Et on croit que Dieu fait de la même façon. Alors c'est juste inverse.
Du coup, on oppose providence et liberté. On a l'impression que Dieu nous pousse. Et...
Providence, oui. Alors que Dieu agit simultanément. Et Dieu agit différemment sur l'intention, sur la fin et sur les moyens. Sur les moyens, il agit par des causes secondes et sur la finalité directement. C'est le même problème qu'on retrouvera en théologie pour le problème de la parole de Dieu. Une parole qui vient de Dieu, la finalité. Dieu fait cela pour nous instruire, pour agir sur notre intelligence. Et il le fait en se servant de causes secondes. Alors, en se servant de causes secondes, je peux atteindre ces causes secondes scientifiquement, mais la finalité, je ne l'atteins pas scientifiquement, je l'atteins par la foi. Et c'est ça qui fait la parole de Dieu. Il est très très important de bien comprendre que l'action de Dieu est toujours sur l'être.
Donc comme vous disiez tout à l'heure, Dieu nous conduit dans la recherche de la vérité. Ça veut dire que Dieu nous éclaire sur cette fin de notre intelligence.
Oui, Dieu nous éclaire sur ce bien. Dieu fait comprendre que c'est dans le bien de notre intelligence, c'est la vérité. Vous savez, on a une intelligence bien faite quand elle atteint la vérité. Quand l'intelligence est encombrée d'erreurs, elle n'est pas bien faite. La vérité est forme de mon intelligence. Une intelligence qualitative. Je peux avoir une intelligence quantitative, très lourde, mais fausse. Je lis le journal tous les matins. Mais je ne deviens pas intelligent en lisant le journal tous les matins. Ça n'éduque pas mon intelligence, ça nourrit mon imagination, ça ne nourrit pas mon intelligence.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'un homme n'est, entre guillemets, sous la conduite de Dieu du point de vue philosophique que s'il cherche la vérité ?
Oui. Comme moyen. Le moyen type pour chercher la vérité, c'est la philosophie. Il n'y en a pas d'autre. Puisque la science ne touche pas l'être. Et l'être est au niveau de la vérité. La vérité est au niveau de l'être. Si vous ne saisissez pas l'être, il n'y a plus de vérité, il y a des opinions. Et le journal est au niveau des opinions. Des opinions de droite, des opinions de gauche, des opinions du centre, des opinions du sous-centre.
C'était toutes nos questions.
Ouais, c'est très bien. La vieille coutume qu'on avait à Fribourg, quand c'était le dernier cours, on faisait toujours un cours moins long, plus court. Alors, si toutes les questions sont posées, vous voyez mieux, j'espère, après ces quelques petites conférences, cours et réponses aux objections, que l'intelligence seule atteint l'être. Ceci est. Ma raison atteint mes raisonnements, c'est-à-dire des relations. Et parmi ces relations, il y a des lois qui sont des relations nécessaires, qui s'imposent. Alors que le principe est toujours au niveau de l'être. Le principe philosophique. Vous voyez par le fait même que la philosophie, c'est vrai, est un fruit rare, mais très important pour notre intelligence. Parce que notre intelligence ne va s'éveiller que grâce à cette recherche philosophique. Considérait que le philosophe était un accoucheur. Parce que le philosophe permet à l'intelligence, pas à la raison, d'exister, de juger, de discerner. Alors, par l'intelligence, je discerne, je vois ce qu'il y en est. Et c'est l'intelligence qui fait cela. À partir de mes expériences qui nourrissent mon imagination, qui aussi forme en moi les images. Mon intelligence se développe en se servant ces images et en manipulant ces images. Il y a comme une lumière intérieure qui éclaire ces images et réalise de ces images une abstraction. Ou universelle, et on a un fruit, un concept universel, ou une proposition analogique. Quand on dit analogique, ça veut dire toujours diverse et cependant avec quelque chose de commun. L'être se dit de multiples façons. Il s'attribue beaucoup de détermination et c'est ça qu'on appelle l'analogie. Quand il y a diversité et similitude. Quand il y a une diversité première, et au-delà de cette diversité, il y a quelque chose de commun. Vous voyez, quand je dis « ceci est », je veux parler de l'âme, je veux parler du corps. L'âme, ceci est, l'être à l'âme, l'âme est source de l'être pour moi. Mon âme est source de mon être. Tandis que mon corps n'est pas source de l'être, mais mon corps manifeste ce qui est en moi. Donc, je vois d'un côté, quand je parle de l'âme, l'âme est principe et source, le corps est une réalité seconde qui manifeste cette source, les effets de cette source. Et l'être est dit des deux. Mon âme existe, mon corps existe. Mon âme existe comme une source, mon corps existe comme ce qui manifeste cette source. Donc, la signification de l'être est différente quant à l'âme et quant au corps. Et c'est toujours l'être. Mais une signification différente. Alors là, on a quelque chose qui est attribué analogiquement, c'est l'analogie, à différence d'une attribution univoque, quand je dis par exemple que tel individu a telle couleur de cheveux, la couleur de cheveux est univoque. Parce que c'est une forme. Merci d'avoir écouté et d'avoir été patient en écoutant, parce que c'est vrai, c'est difficile de ramasser ce parcours philosophique très intense qui va jusqu'à la sagesse, jusqu'à Dieu, un parcours extraordinaire de philosophie. Qui est divers et qui est un. Et là, vous voyez tout de suite que la philosophie a diverses parties. Théologie naturelle, c'est le sommet, quand on atteint Dieu. Métaphysique, on regarde les causes de l'être, ce qui est premier dans l'être. Le vivant, on regarde ce qu'est le vivant, l'âme comme principe du vivant, la philosophie de la nature. Il faut les écrire. Philosophie de la nature. Et puis, vous voyez, la philosophie politique, la philosophie éthique ou morale, et la philosophie de l'art. Au terme de tout cela, il faut ajouter la logique, qui n'est pas une partie de la philosophie, et la critique, qui n'est pas une partie de la philosophie, mais qui sont des parties réflexives, donc secondes, et qui sont très importantes, la logique et la critique. Très bien. Théologie naturelle, vous savez, logique, critique, la logique et la critique. Ce ne sont pas des parties organiques. Bon, cela, Aristote, si on sait lire, le dit, ce sont des parties de la philosophie. Je le répète, non pas parce que c'est Aristote qui l'a dit, mais parce qu'en réalité, l'homme travaillant, l'homme artiste, c'est l'homme qui transforme l'univers. L'homme moral, c'est l'homme qui comprend la responsabilité de ses actes. et qui, grâce à l'amitié, pénètre plus profondément dans la personne humaine. L'homme politique étudie l'activité communautaire de l'homme. Vous voyez, chercher d'autres aspects, vous pourrez me dire la psychologie. Hein. Est-ce que la psychologie fait partie de la partie philosophique ? La psychologie est née il n'y a pas très longtemps. Pour le philosophe, hein, 100 ans, c'est pas très beaucoup. 100 ans, c'est pas grand-chose pour les philosophes. Donc, la psychologie, elle est récente. Pourquoi Aristote n'a pas parlé de psychologie ? Parce qu'il n'était pas bête, quand même. Il avait une attitude. Il avait une attitude réflexive, logique. Il a très développé la logique. Il n'a pas développé la psychologie. C'est curieux. À l'examen 0-0, la psychologie. Dans l'éternité, alors je passe à la théologie, dans l'éternité, nous continuerons de faire de la philosophie, ça. Je travaille pour votre éternité, en disant ça. Tandis que vous ne ferez plus de psychologie. La psychologie regarde les accidents de parcours. Nous sommes, l'homme est un être qui devient. C'est l'être qui devient le plus que tous les autres. Dès le point de départ, vous avez été la conception biologique. Au point de départ, c'était pas gros, hein, l'être humain. Il a grossi pendant les 9 mois d'attente. Il a grossi, il a grandi, il s'est développé. C'est quand même une fameuse évolution. Le passage dans le sein maternel, au passage d'un autre milieu, le milieu où l'enfant est déposé dans le berceau. C'est pas la même chose. Vous vous souvenez de ce changement très grand? Vous êtes passé de ce milieu à l'autre milieu. Et puis vous avez grandi jusqu'aujourd'hui avec des accidents de parcours, les maladies, les chutes, les erreurs. Et non seulement vous, mais il y avait à côté de vous, il y a toujours des bandits, de bons bandits. Ils ont des masques, et on ne voit pas qu'ils sont pas des bandits, et qu'ils sont là pour vous arrêter. Ah non, non, ne va pas là. On a des arrêts. Et il y a des arrêts qui sont quelquefois très profonds, qu'on arrive très difficilement à saisir. Alors, on regarde ces accidents de parcours et on met une rustine pour guérir. On a mis ça, on a mis un pansement. Mais quand c'est intérieur, vous savez, on met un pansement et on continue de vivre. Et quelquefois, le pansement n'était pas suffisant. Il s'est réapparu plus tard. C'est toujours très difficile, parce que l'être vivant, c'est l'être qui se construit de l'intérieur. Et il est évident que lorsqu'il vieillit, il accepte de moins en moins tout ce qui vient de l'extérieur. Et c'est en ce sens-là qu'il se durcit. Alors, ce qui vient d'extérieur a été à la fois visible, et quelquefois, ça n'a pas été visible. Dans votre jeunesse, c'est resté. Et ça empêche d'autres parties de se développer, d'autres genres de se développer. Alors, à ce moment-là, on va chez le psychologue qui nous montre comment on peut rattraper ce qui a été perdu. C'est ça qu'il devrait faire, mais quelquefois on ne peut jamais rattraper. Hein. Ce qui était perdu est perdu, et on doit faire avec. On doit accepter ça. Mais ce n'est pas de la philosophie, parce que ça ne cherche pas les causes. Le philosophe cherche toujours ce qui est premier, ce qui est le cause. Tandis que quand on regarde un accident, le tout c'est de comprendre cet accident, comment il s'est fait. On ne cherche pas le premier, il n'y a pas de premier dans le mal, parce qu'il n'y a pas d'ordre. J'ai toujours passé par l'ordre avant de passer au premier. Et l'ordre, à ce point de vue-là, est essentiel pour nous permettre de passer au premier. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu voir tout ce que j'aurais voulu voir. J'en ai vu cet après-midi au moins. Ceux qui voulaient voir.